20 à 26 degrés près de la Manche, 26 à 30 ailleurs, jusqu'à 30 à 34 en Méditerranée. Et puis la suite de la semaine sera très ensoleillée et de plus en plus chaude.
Merci Elodie Calac. France Inter, il est 6h. Le journal Alexis Morel, bonjour.
Bonjour Mathilde, bonjour à tous. Au cinquième jour du conflit Israël-Iran, faut-il s'attendre à une implication américaine? Donald Trump quitte prématurément le sommet du G7 pour rentrer ce matin à Washington. On y retrouvera notre correspondant. On verra aussi si on peut parler de guerre ou pas entre l'État hébreu et la République islamique. En France, les obsèques aujourd'hui de la surveillante du collège de Nogent, en Haute-Marne.
Parole d'adolescent dans ce journal, ce sera le grand format.
Et comment réagissent-ils au débat sur l'ultra violence qui toucherait leur génération. À suivre aussi le succès impressionnant du commerce équitable, en particulier de ses produits français. Et un an après les JO, des nouvelles de l'escrime tricolore en plein championnat d'Europe.
Inter. Les membres du G7 parviennent à un consensus sur le conflit entre Israël et l'Iran.
La déclaration commune est tombée il y a trois quarts d'heure au Canada, où sont réunis les dirigeants occidentaux. On peut y lire que l'Iran ne doit jamais accéder à l'arme nucléaire, qu'Israël a le droit de se défendre, mais qu'il faut protéger les civils. Ce matin, ils ne seront plus que six autour de la table. Donald Trump s'apprête à quitter les discussions plus tôt que prévu pour rentrer à la Maison-Blanche, en raison justement de la situation au Moyen-Orient. Sébastien Pau. À Washington.
Je dois rentrer dès que possible à cause de ce qui se passe au Moyen-Orient. Pas d'autres explications devant les micros hier soir en Alberta. Pas davantage dans le communiqué de la porte-parole de la Maison-Blanche. Le président rentre à Washington s'occuper de sujets importants. Le conflit entre Israël et l'Iran, bien sûr. Tout le monde devrait immédiatement évacuer Téhéran, écrivait le président américain encore au Canada hier avec le chef de la diplomatie Marco Rubio. Un conseil de sécurité nationale était convoqué à leur retour à Washington. Alors que le secrétaire à la Défense assurait lui que les États-Unis défendaient leurs intérêts dans la région, mais restaient en position défensive. Ce que vous voyez en temps réel, c'est la paix par la force, d'après Pete Hegseth, qui relaie le préalable présidentiel. L'Iran ne doit pas avoir l'arme nucléaire et peut encore trouver une solution négociée à l'escalade avec Israël, l'État hébreu qui lui fait pression sur les États-Unis pour qu'ils interviennent militairement. Washington, Sébastien Paour, France Inter.
Éliminer le guide suprême iranien demeure-t-il un objectif d'Israël ? En tout cas, cela mettrait fin au conflit, veut croire Benjamin Netanyahou. Le premier ministre israélien assume, il estime que son pays est en train de changer la face du Moyen-Orient avec cette offensive inédite contre son grand rival. Emmanuel Macron lui répond cette nuit, renverser le régime iranien par la force serait, je cite, une erreur stratégique. Hier, l'armée de l'État hébreu a visé notamment les locaux de la télévision du régime à Téhéran. La République islamique a promis en riposte des frappes contre Israël sans interruption jusqu'à l'aube. Plus de 220 morts depuis vendredi côté iranien ou un 24 côté israélien. Comment qualifier ces hostilités? Est-ce vraiment le début d'une guerre? Bonjour Delphine Simon.
Bonjour.
Que dit le droit international là-dessus?
Oui, depuis 1949, la Convention de Genève distingue les conflits comme la guerre civile en Syrie des conflits qui mettent aux prises deux ou plusieurs États. Ce qui caractérise ces conflits, c'est l'intensité de la violence. Sinon, on parle plutôt de troubles ou d'émeutes. Des conflits organisés avec des forces armées obéissant à une autorité hiérarchique. Au fil des siècles, le droit international s'est doté de plusieurs règles pour encadrer ce recours à la force. Par exemple, la technique de combat doit distinguer civils et militaires, garantir le droit humanitaire et appliquer un principe de proportion dans les attaques.
Et donc dans le cas qui nous intéresse entre Israël et l'Iran ?
Aucun doute, on est dans une situation de conflit armé. La Charte des Nations Unies prévoit le droit d'utiliser la force armée dans deux cas seulement. D'abord avec l'aval du Conseil de sécurité de l'ONU, comme lors de la guerre en Libye. Deuxième cas, lorsqu'il s'agit de légitime défense. Or, pour justifier ces attaques, Israël invoque le risque que le programme nucléaire iranien n'aboutisse. Sans preuve, il s'agit d'une guerre préventive, c'est illégal. Par ailleurs, la Convention de Genève, par l'article 56, interdit toute frappe sur des ouvrages dangereux comme les centrales nucléaires.
Merci Delphine Simon. Il prévoyait de faire encore plus de victimes. On apprend que l'homme arrêté aux États-Unis après le meurtre d'une députée démocrate du Minnesota s'est rendu au total chez quatre élus la nuit du crime. Il se serait déguisé en policier pour passer inaperçu. Le procureur fédéral de cet État parle d'un assassinat politique.
Ils sont 120 toujours détenus en Syrie.
Ces enfants de djihadistes français qui croupissent dans les camps et les prisons contrôlées par les Kurdes depuis la chute de Daesh il y a plus de 5 5 ans. Entre-temps, certains sont devenus majeurs et ils réclament aujourd'hui leur rapatriement en France. Leurs avocats, mais aussi des associations de retour de Syrie, interpellent donc les autorités, ainsi que leurs familles, comme Suzanne, cette grand-mère dont le prénom a été modifié, ne comprend pas pourquoi Paris leur refuse toujours ce retour.
Nous, les grands-parents, ne comprenons pas ce qui empêche la France d'aller les chercher immédiatement et d'arrêter leur enfer qui vivent sur place. L'enfer, c'est 40 degrés l'été, c'est moins 20 l'hiver, il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas du tout de soins. Donc les enfants tombent malades, il y a la pollution avec tous les puits pétroliers, il y a une poussière dingue, il y a des tempêtes de temps en temps où toutes les toiles de tente volent. Donc ce ne sont pas des conditions pour des enfants. Les grands-parents sont prêts à les accueillir, les attendent, préparent tout ici en France pour qu'ils rentrent et qu'ils retrouvent une vie d'enfant. On ne les abandonnera pas. On ne va pas les abandonner là-bas. Donc nous, on continuera tant qu'ils ne seront pas rentrés.
Le témoignage de cette grand-mère au micro de Delphine Evenou. Pour réformer la réforme des retraites, une toute dernière réunion ou la prolongation des débats. Syndicats et patronats doivent se revoir aujourd'hui pour une ultime séance de négociation, mais le Premier ministre est prêt à leur accorder quelques jours de plus pour aboutir à un accord qui serait ensuite soumis au Parlement. Mais quel accord possible entre la CFDT et le patronat? Pas sur l'âge de départ, ça c'est désormais certain, les 64 ans ne bougeront pas, mais les discussions se poursuivent sur les métiers pénibles ou les carrières des femmes. Mélanie, la surveillante de collège tuée par un élève à Nogent, en Haute-Marne, doit être inhumée aujourd'hui dans son village de Sarcey. La ministre de l'Éducation compte lui remettre la Légion d'honneur à titre posthume. Depuis ce meurtre il y a une semaine, débats et questions se multiplient sur la violence chez les adolescents, désinhibés selon le président. On les décrit prisonniers des réseaux sociaux et des jeux vidéo.
Mais se reconnaissent-ils dans ce portrait? C'est le reportage grand format.
Simon Le Baron leur a posé la question à Chartres en Eure-et-Loir.
On ne peut pas dire que Louane, Lila et leurs copines assises devant le fast-food à côté du collège où elles sont en troisième soient choquées par ce que l'on dit de leur génération.
Moi je pense que c'est vrai.
C'est vrai, moi aussi je pense que c'est vrai.
Parce que sur les réseaux sociaux on voit des fois des choses qu'on ne devrait pas voir.
Ça influence surtout les bagarres, etc. Parce que ça répand des fausses informations, etc. Je suis sûre s'il n'y aurait pas les réseaux sociaux, on serait plus calme.
En vrai on n'est pas violente, on n'aime juste pas le manque de respect.
Mais Léa, qui est un peu plus âgée, veut aussi que l'on comprenne qu'elle grandisse dans un monde où tout va trop vite.
Je dis pas ça en tant qu'ancienne, mais avant, moi j'ai 19 ans et avant on n'avait pas vraiment de téléphone. Et tout, on était heureux et ouais, vraiment c'était beaucoup mieux, on était en paix et tout, on jouait dehors et tout.
C'est vrai que quand on était en 2018 et qu'on jouait dehors, c'était bien.
C'est plus le cas pour les plus jeunes, la nouvelle génération que nous. C'est vrai que nous on a plus sûrement lu quand on était jeune et des trucs comme ça, on est moins sur les réseaux sociaux que les jeunes, les plus jeunes que nous en tout cas.
Comment s'étonner que les jeunes soient violents dans un monde violent, ajoutent Arthur et Charles-Emmanuel.
La violence elle est pas que dans les jeux vidéo et dans les réseaux sociaux, donc faut pas caricaturer en disant c'est que les adolescents, c'est tout le monde. Même vous, les grandes personnes, vous êtes confrontés à la violence de la vie tous les jours. Et c'est pas pour ça qu'on va vous voir et on vous dit c'est des débiles sur les réseaux, etc.
C'est vrai qu'on est encore des enfants, mais on est constamment confrontés à la violence.
Alors Louise en a un peu assez de la façon dont les adultes, journalistes ou tontons, parlent des ados.
Dans les médias, quand ça parle de ça, c'est toujours le côté négatif. Ça dénigre vachement notre génération alors que finalement, on n'est pas comme ça. Enfin, en tout cas, pas tout le monde. Quand en repas de famille... Il y a un oncle qui commence à dire que la génération, je ne sais quoi, on est tous déprimés, on est tous bêtes et tout, moi ça m'énerve.
Une génération qui, comme les autres, estime en somme qu'elle mérite mieux que des généralités.
Ces ados de Chartres au micro de Simon Le Baron, tandis qu'en Charente, les professeurs d'un collège d'Angoulême ont brièvement suspendu les cours hier pour exprimer leurs craintes. Le logement de la principale a été vandalisé durant le week-end. Ce n'est pas la première fois que cette chef d'établissement est ciblée cette année. Dans le secteur des crèches privées, un nouveau groupe épinglé, l'entreprise La Maison Bleue, 600 crèches de 20 000 places, est sévèrement mise en cause dans un rapport de l'Inspection Générale des Affaires Sociales qui pointe des défaillances dans l'accueil des enfants, des fausses déclarations à l'administration pour décrocher plus de subventions ou encore des anomalies financières. La direction récuse certaines de ces accusations et ne reconnaît que des erreurs administratives. En supermarché, il a résisté à l'inflation ces dernières années. Le succès toujours florissant du commerce équitable. Le collectif qui regroupe les marques du secteur publie ses derniers chiffres de vente. France Inter vous les dévoile ce matin en exclusivité. Plus 25% sur un an pour 2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et ça s'explique surtout, Mariam El-Kurdi, par le dynamisme des produits français.
Alors qu'avant, on pensait surtout café ou chocolat et solidarité avec les petits producteurs des pays du Sud. Aujourd'hui, commerce équitable rime aussi beaucoup avec soutien des agriculteurs français. La croissance de la filière est poussée par l'augmentation des achats de produits portant à la fois le label et la mention Origine France, plus 65% en un an. Pour Julie Stoll, déléguée générale de Commerce équitable France, la demande a poussé à diversifier l'offre. Et inversement.
Absolument tous les produits du quotidien alimentaire des Français peuvent être trouvés dans leur version issue du commerce équitable. Du lait, des fruits et légumes, des céréales, des œufs, de la viande. De plus en plus d'entreprises proposent des produits issus du commerce équitable. On a également des distributeurs qui jouent plus le jeu aussi et qui en proposent aux consommateurs. Et donc ce sont des facteurs explicatifs de la montée en puissance du commerce équitable sur les filières françaises.
Preuve de cette montée en puissance, la part des produits français issus du commerce équitable représente en 2024 la moitié des ventes totales de la filière, contre un tiers l'année précédente.
Maria Melkurdi.
5 médailles en 3 jours pour la France au championnat d'Europe d'escrime.
Dont 3 titres pour l'instant en individuel. Place désormais aux épreuves par équipe à Gênes en Italie, avec pour commencer aujourd'hui le fleuret dames et le sabre chez les hommes. Des équipes qui ne sont plus tout à fait les mêmes qu'au dernier JO de Paris, mais avec des ambitions identiques, Marion Ferrer.
Le fleurettiste Maxime Potti, médaillé de bronze par équipe l'été dernier à Paris, affiche clairement son objectif.
Au final, c'est un peu le minimum par équipe.
Saison terminée plutôt pour les uns, opération médicale pour d'autres. Maxime Potti est le seul rescapé des JO. Mais en fleuret, la France est tenante du titre européen. Pas question de revoir les ambitions à la baisse.
Bon, on a quand même envie de performer tous ensemble. Nous, on est un groupe d'entraînement de 12 athlètes, voire 20 si on élargit un petit peu. Donc en fait, à chaque fois, c'est un peu les 4 meilleurs de la saison qui sont envoyés. Donc on a confiance dans la force du collectif et du groupe. Et on sait que les 4 qui y vont, bah, c'est ceux qui peuvent ramener des médailles à la France.
Discours similaire pour la vice-championne olympique au sabre, Sarah Balzer.
Par équipe, ça fait 3 années de suite que l'équipe gagne. Donc ce serait cool aussi d'aller chercher ce 4e titre.
Même si l'équipe a été remaniée à 50%.
C'est des jeunes, elles sont nouvelles, elles font pétiller le groupe. Donc c'est super. Et quand je suis rentrée en équipe de France, j'avais aussi des filles avec plus d'expérience qui m'ont aidée. Donc il n'y a aucune raison que ça ne se transmette pas. À nouveau.
Le fleuret dames et le sabre dames et le sabre homme débutent ces épreuves par équipe aujourd'hui. Des armes qui ont déjà rapporté 3 médailles individuelles à la France, dont 2 en or au début de ces championnats d'Europe.
Les championnats d'Europe d'escrime, c'est jusqu'à jeudi à Gênes.
Alexis Morel, merci. J'accueille à présent Claude Escolovitch et Laetitia Gaillet. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Mathilde. Claude, à la une de votre revue de presse.
On parle d'un bonhomme de Boulogne-sur-Mer qui s'appelait Jackie, mais qu'on surnommait Hortensia quand il était au cabaret de chez Michou, rue des Martyrs à Paris. C'est dans le Nord Littoral et dans la Voie du Nord, qui est le vie.
Laetitia, pour Regarde la France, où nous emmenez-vous ?
On entre dans les coulisses des métiers de la justice avec Isabelle, greffière à la Cour d'appel de Toulouse. Mais au fait, c'est quoi une greffière ?
Et à 6h20, les beaux jours sont là, mais gare au soleil, il ne faut pas en abuser pour éviter les cancers de la peau. La Ligue contre le cancer lance justement une campagne de sensibilisation.
Inter, 11h, Nagui et Leïla Kadour.
Ce mardi, nous recevons Elisa Erka et Baptiste Le Caplin.
Et nous partirons sur les traces du CID et du plus mythique festival de théâtre au monde avec la comédie romantique Avignon.
La bande originale tous les jours à 11h sur Inter.
Il y a des choses que je n'ai jamais dites à ma famille. Mon fameux plat maison vient de chez le traiteur. Je leur fais croire que je deviens sourde pour qu'ils arrêtent de me demander des choses. Et non, le chat n'est jamais parti en vacances.
On peut ne pas tout dire à ses proches. En revanche, leur dire qu'on est donneur d'organes, c'est important. Le don d'organes sauve des vies. Alors, rappelez à vos proches que vous êtes donneur. Ceci est un message de l'Agence de la biomédecine, agence relevant du ministère de la Santé.
6h13.
France Inter. Le 5-7.
Esprit Sport s'intéresse cette semaine à l'essor du cyclisme africain dans le sillage de l'Érythréen Binyam Girmay, premier coureur d'Afrique noire, vainqueur d'étape sur le Tour de France. C'est le modèle des 13 jeunes coureurs qui apprennent les rudiments du métier en ce moment en Bretagne.
Il a montré au monde entier que les Africains peuvent aussi faire tout ce que les Blancs font. En faisant des merveilles pour moi, il m'a donné un coup de pouce, m'a encouragé parce que je l'imite aussi. Si on se donne à fond, on va y arriver.
My job is a coach.
Moi, je suis leur entraîneur, Clint Hendricks. Je viens d'Afrique du Sud. Je pense vraiment qu'il inspire toutes les générations. Grâce à lui, on peut espérer avoir plus de sponsors en Afrique, plus d'équipes avec des fédérations et des institutions qui vont investir pour montrer qu'il existe plein de Binyam. Ils ont juste besoin d'un peu de conseils et d'aide avec de bonnes structures pour montrer ce dont ils sont capables.
Ouais, peut-être on peut venir comme Biyam aussi. Ça nous motive aussi, pour tous les Mauriciens. Je veux que ça vienne mon métier aussi. C'est ça l'objectif, de trouver une équipe en Europe. On peut avoir notre chance, mais on doit travailler beaucoup pour venir comme ça.
Et ces 13 jeunes cyclistes espèrent participer fin septembre aux Mondiaux sur route disputés au Rwanda, les premiers championnats en Afrique. Des témoignages recueillis par Fanny Lechevestrier. Il est 6h15, c'est la revue de presse. Claude Askolovitch, revue des unes d'abord.
Ah, et la une du Dauphiné Libéré, édition Haute-Alpes, Alpes de Haute-Provence. A-t-on découvert un trésor des Templiers ? C'est un monsieur qui s'en alla à la pêche, a trouvé un trésor, qui serait peut-être, je vous l'ai dit, un trésor des Templiers. Ça fait rêver. À quoi rêve-t-elle, cette petite jeune fille que je vois à la une de la Croix, regardant son téléphone portable. Ses yeux sont d'une tendresse infinie. Je m'inquiète pour elle, réseaux sociaux, tout le mal qu'ils font aux jeunes. C'est pas la première une là-dessus, ni le premier dossier là-dessus, mais la photo est magnifique. Tiens, à propos de jeunes, une du courrier plus Picard, bac 2025, même plus peur de la philo. Une de l'Alsace, bac philo, pensée sans chat GPT, tu vois, c'est possible. Une de la Charente libre, Camille, 14 ans, petite prodige du bac, elle est forte en maths. Une de la montagne, une de l'éveil de la Haute-Loire, au chevet des espèces menacées, ça parle d'un parc animalier d'Auvergne. Il n'y a que des espèces menacées dans ce zoo. Fantastique, fantastique, fantastique. Hélas, une de Paris-Normandie, près du Havre, chevaux mutilés. Appel à la vigilance. C'est atroce, c'est l'enfer. Tiens, l'enfer parodique, une de Presse-Océan. Hellfest, quoi de neuf cette année ? L'enfer, un homme l'a connu. C'est à la une du Courrier de l'Ouest et à la une du Maine Libre. C'était à Saumur. Il a été chassé d'un restaurant pour le propriétaire du restaurant. Il avait un cancer, il ne sentait pas bon. Il y a eu procès, il était condamné. Sinon, une de l'équipe. Le père de Neymar nous dit que son fils peut revenir au plus haut niveau. Et moi, je suis le père de Théo qui hier était à la une du Courrier de l'Ouest parce qu'il est comédien. Édition de Saumur, pas de bol. J'avais lu celle de Cholet. Maintenant, voilà, c'est dit. Salut, fiston.
Et c'est trop tard.
Bah non, oui, c'est trop tard.
Le spectacle est passé.
Non, pas du tout. Le spectacle, c'est à venir. C'est un festival.
Claude, dans votre choix, une fleur.
L'hortensia, c'est la plus grosse des fleurs et il valait bien cela. Jackie est nu que vous contemplez, massif et tendre, maquillé, perruque, trois rangs de fossiles ou simplement gentil copain, t-shirt rayé, père de son pote et patron Michou qu'il avait embauché dans son cabaret transformiste rue des Martyrs à Montmartre. Michou qui est mort et que Jackie a rejoint dimanche à 81 ans. Michou qui donc, à l'entrée de Jackie dans la boîte, l'avait rebaptisé Hortensia parce que toi, t'es un massif de fleurs à toi tout seul. Et donc vous lisez Hortensia dans La Voix du Nord et dans Nord Littoral et comme on dit, c'est toute une époque que vous lisez avec lui. Se promène devant vous Johnny Hallyday, Andy Warhol, Cher, Nicoletta, Sylvie Vartan, Yves Mourouzi, Claude François, pour qui Jackie, qui n'était pas encore Hortensia, avait concocté une salade composée qui devint le plat fétiche du chanteur. C'était un soir où le chef n'était pas là chez Castel, au lieu de la nuit où Jackie était serveur. Il avait des rêves, Jackie, comme parfois en province. C'était un enfant de Boulogne qui n'avait pas voulu rester au pays travailler le poisson. Il était monté à Paris le jour de ses 21 ans, majeur, avec une valise en carton. Avant Castel, pendant 10 ans, il avait été maître d'hôtel dans le 16e, chez Robert Mitterrand, frère de François. Après Castel, il avait tourné en Allemagne dans une troupe transformiste. Puis donc, il y eut Michou. Michou qui l'emmena chez lui à Boulogne. Michou qui lui avait donné son rôle fétiche, celui de Brigitte Bardot, splendide, émouvante. Il disait à Hortensia qu'il avait en commun avec Brigitte des problèmes de hanche. Il a écrit ses mémoires avec un confrère du Nord, Gauthier Navet, qui en a de la chance de l'avoir connu. Nous pouvons lire et rêver. C'est bien. Aussi, Nord Littoral, La Voix du Nord.
Merci Claude Askolovitch. 6h18, Regarde la France fait une halte dans un palais de justice. Qui est à votre micro, Laetitia Gaillet ?
Isabelle Anger, j'ai 51 ans et je travaille actuellement en qualité de greffier à la cour d'appel de Toulouse.
Elle voulait me montrer son lieu de travail.
C'est vraiment une salle d'audience assez hors du commun. Quand je vous dis que c'est incroyable, c'est incroyable.
Ah ouais. Waouh. Parquet, velours rouge sur les bancs, les fauteuils, plafond en bois, lustre ancien, la salle effectivement impressionne.
Quand vous êtes dans cette salle-là, vous vous installez où ?
Ici.
Alors, si on est face au magistrat, vous êtes sur le côté gauche.
Exactement.
Voilà, et les magistrats sont face à nous. Et en fait,
un greffier, c'est avant tout un expert de la procédure. C'est-à-dire qu'il a en charge la bonne tenue du dossier, de la saisine du départ, quand le justiciable vient déposer son dossier, jusqu'à la notification de son jugement. Et tous les actes juridictionnels sont contresignés par le greffier. Si ce n'était pas le cas, ces actes seraient nuls. Donc on a vraiment une vraie responsabilité, au même titre que le magistrat.
Vous êtes des personnes de l'ombre, finalement.
Très peu de gens nous connaissent. Et même, j'allais dire, parfois dans la famille proche, les gens savent que vous êtes greffier. Mais vous leur dites « Ah bon ?» et ça consiste en quoi ? Ils ne sauraient pas vous répondre. Mais quand même, ça vous titille que vous ne soyez pas reconnu.
Alors oui, on est des vrais collaborateurs des magistrats. On n'est pas simple secrétaire.
Greffière, c'était le rêve absolu ou comment ça vient ça ?
Alors non, pas du tout. Le rêve absolu pour moi, c'était de rentrer dans la police. J'ai passé des concours à peu près en même temps et il se trouve que c'est le concours de greffier que j'ai obtenu.
Mais le droit, c'était quelque chose qui vous motivait dès le départ ?
Oui, tout à fait. La justice, c'est vraiment une valeur qui me tient à cœur, dans ma vie privée, dans ma vie personnelle également. Je déteste l'injustice.
Le jour où vous mettez votre robe, ça fait quoi ?
On prend la mesure des responsabilités qui vont nous incomber.
À ce point-là ?
Oui. Une erreur de procédure peut vous faire capoter un dossier et il y a des soirs où je dors pas très bien, ça c'est évident.
D'autant que les dossiers s'accumulent.
Je me souviens pas avoir eu autant de retard dans le traitement et autant de personnes qui souffrent autour de moi.
Vous êtes sur plusieurs dossiers en même temps en fait, on est bien d'accord.
Là actuellement dans ma chambre, j'ai à peu près 800 dossiers en cours.
Donc, pour combien de greffiers ?
Alors, on est deux greffiers et trois magistrats.
800 ?
Mais,
pour
mais,
deux ?
Oui, non, mais c'est pas très parlant, mais...
Ah bah si. Bah,
mes plus vieux dossiers datent de 2021. Mais c'est pas mal, parce que dans d'autres chambres, on est beaucoup plus anciens que ça.
Vous faites un beau métier ?
Ah oui, très certainement. On est reconnu par nos pairs, et c'est ça le plus important. Mais en tout cas, moi, j'ai conscience d'être vraiment utile au service des gens. Et ben, finalement, moi, ça me suffit largement.
La cour.
Isabelle Anger, greffière à la Cour d'appel de Toulouse. Un portrait de plus à retrouver sur l'appli Radio France. C'est la chronique Regarde la France de Laetitia Gaillet.
France Inter. Mathilde Munoz. Le 5-7.
On n'est pas des saucisses. Notre peau n'est pas faite pour griller au soleil. C'est le slogan de la nouvelle campagne d'information de la Ligue contre le cancer pour alerter sur les dangers des rayons UV juste avant l'été. Bonjour Alexandre Cobigot.
Bonjour.
Vous êtes responsable prévention au sein de la Ligue contre le cancer. Alors sur votre affiche, on voit des saucisses bien marrons, en maillot de bain et avec des lunettes de soleil qui se promènent sur une plage. Et il est écrit « Griller au soleil, c'est 80 000 cancers de la peau dus aux UV et 2 000 décès par an ». Si vous nous alertez sur le sujet, c'est qu'il y en a de plus en plus des cancers de la peau à cause du soleil ?
Absolument, on est vraiment en face d'une épidémie de cancers de la peau en France et elle est principalement liée au vieillissement de la population, mais aussi au fait qu'on s'expose de plus en plus au soleil et aux comportements bien sûr qui sont liés notamment aux vacances.
Mais pourtant j'avais l'impression qu'il y avait une prise de conscience, c'est pas comme dans les années 60 où voilà, tout le monde était sur la plage, personne ne se protégeait. Ces messages, ça fait quand même pas mal de temps qu'ils passent maintenant. Il y a un changement là, des mentalités, des comportements récemment ?
Vous avez tout à fait raison, il y a une prise de conscience, les gens connaissent bien les risques, mais c'est aussi pour ça qu'on a fait cette campagne un peu décalée, parce que même si les gens connaissent les risques, et ben pendant les vacances notamment, il y a des grosses prises de risques et à peu près 2/3 des Français déclarent avoir bronzé dans l'année.
Et c'est ce qu'il y a aussi un paramètre culturel dans certains pays, à certaines époques, ne pas bronzer, garder une peau le plus claire possible, c'était bien vu, ça dépend aussi, ça varie.
Bah, je le tournerai dans l'autre sens, c'est qu'aujourd'hui en France, il y a une valorisation du bronzage, le bronzage est associé au fait d'être en bonne santé, le bronzage est associé au fait de montrer qu'on est parti en vacances, donc il y a un enjeu de normes sociales, et cette campagne On n'est pas des saucisses, elle est là aussi un petit peu pour bousculer et dire, regardez, cette norme sociale, elle n'est pas normale, elle nous met en danger collectivement.
Et en même temps, on a besoin de soleil, donc c'est une question de dosage ?
On a besoin de soleil, c'est-à-dire que
la
lumière joue sur le moral, le soleil participe à la synthèse de la vitamine D et du phosphore, mais tout est question d'équilibre, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait avoir sa dose de vitamine D tout en préservant son capital soleil et surtout en évitant le risque de développer des cancers de la peau.
Alors donc, vous nous dites qu'il est possible de profiter du soleil sans prendre de risques. Alors j'ai tout plein de questions, on va commencer par la crème, indice 50, si on met ça on est tranquille ?
Non, c'est pas comme ça que ça se passe exactement. C'est vrai qu'il y a une mauvaise conception en France et je pense d'ailleurs dans le monde à propos de la crème. C'est-à-dire que les gens, notamment sur la plage, ils pensent que s'enduire de crème, c'est bon, on est protégé. En fait, c'est pas véritablement comme ça. C'est même complètement l'inverse. Il faudrait renverser un petit peu la façon de voir la prévention. Aujourd'hui, quand on veut se protéger du soleil, la première chose à faire, c'est de rester à l'ombre. C'est de ne pas s'exposer entre midi et 16h, entre 10h et 14h quand on est entre les tropiques. Je le dis parce qu'il y a des gens qui vont bientôt partir en vacances et c'est pas exactement la même chose entre les tropiques. Donc ça, c'est important à savoir. Il y a aussi le fait de porter des vêtements amples, un chapeau, des lunettes. Et ensuite, une fois qu'on a fait tout ça...
Donc on reste pas en maillot de bain sur la plage ?
Eh ben non. Et une fois qu'on a fait tout ça, une fois qu'on est bien couvert, la crème peut arriver, mais la crème, elle arrive que sur les parties qui sont découvertes. Donc le fait de s'enduire de crème et de se penser protégé, ce n'est pas du tout... aujourd'hui le conseil de prévention qui est reconnu d'un point de vue scientifique.
Et en plus, il faut la renouveler, en mettre régulièrement.
Voilà, il faut idéalement la mettre aussi 20 minutes avant l'exposition, il faut la renouveler toutes les 2 heures, aussi il faut la renouveler après la baignade, quand on a transpiré. Donc vous comprenez bien que c'est pas facile à faire quand on est sur la plage pendant plus de 4 heures.
Préparer sa peau avec quelques séances dans une cabine de bronzage, bon ou pas ?
Non, pas du tout. Les UV qui sont dans les cabines de bronzage ne participent pas du tout au côté... Enfin, ça ne protège pas la peau, ça ne prépare pas la peau à l'exposition au soleil. Et je voudrais quand même rappeler quelque chose qui est important et qui est peu connu. Aujourd'hui, les expositions dans les cabines sont liées à à peu près 350 cas de mélanome par an.
Qui est la forme la plus grave du cancer de la peau,
La forme qui a été multipliée par 4 depuis les années 90. Aujourd'hui, on est à peu près à 18 000 cas de mélanome par an, 2 000 morts. C'est aussi un cancer qui touche les plus jeunes. Voilà, c'est la troisième cause de mortalité par cancer entre 20 et 40 ans. Et surtout, et c'est ça qui est important, c'est que c'est le cancer qui peut être évité le plus, puisque en fait, il suffit d'éviter les coups de soleil pendant l'enfance.
C'est les personnes les plus fragiles, les enfants ? La peau est plus fragile ?
Voilà. La peau est plus fine, la peau est plus fragile. Donc, un bébé, les enfants de moins de 3 ans, pas de soleil. Ensuite, il faut absolument protéger les enfants et les adolescents. J'ai envie de dire aussi quelque chose, c'est de leur montrer l'exemple, puisque du coup, c'est aussi les enfants copient les adultes. Hein, donc, c'est très important de bien montrer l'exemple et de faire attention aux adolescents, parce que même si on a inculqué les bons gestes aux enfants, souvent l'adolescence, on le voit avec le tabac, l'alcool, c'est une période de prise de risque. Donc, c'est une période importante aussi, je le dis aux parents qui nous écoutent.
Et est-ce que le bronzage devient une protection ou est-ce que si on a la peau mate naturellement, on est moins sujet à des cancers de la peau ?
Alors, il y a plusieurs questions là, dans ce que vous évoquez. Non, le bronzage ne protège pas totalement. Donc, il faut toujours continuer à se protéger une fois qu'on est bronzé. Je rappelle d'ailleurs qu'en fait, il faudrait mieux pas être bronzé parce que le bronzage en lui-même est déjà un dommage de l'ADN. Et pour la question des pommates, juste un chiffre, 20% des cancers de la peau se déclarent sur des pommates. Donc, c'est aussi des personnes qui doivent se protéger.
Qu'est-ce qui doit nous alerter ? Quels sont les signes d'un cancer de la peau qui doivent nous faire consulter ?
Alors, il faut ausculter sa peau à peu près tous les 3 mois. Il faut ausculter toutes les parties du corps, y compris la plante des pieds, les parties génitales, le dos. Et toute croûte, toute cicatrice, tout grain de beauté qui évolue, qui a une couleur un peu bizarre. En gros, dès qu'on a un doute, dès qu'on est alerté, moi je conseille d'aller consulter un médecin et une fois par an d'aller voir un dermatologue. Je le dis surtout, allez voir un dermatologue si vous avez des antécédents de cancer de la peau dans la famille ou si vous avez vraiment beaucoup de grains de beauté.
Encore faut-il qu'on trouve un dermatologue, ça c'est un autre
sujet.
C'est une
question.
Protéger sa peau du soleil, c'est tout le temps, pas uniquement l'été et pas uniquement la plage ? Toute l'année ?
C'est surtout l'été, puisque bien sûr les indices UV sont beaucoup plus élevés. Mais en fait, dès un indice UV de 5, donc là actuellement en France aujourd'hui, toute la France sera au-dessus de 5, la France métropolitaine. Donc on doit commencer à se protéger, on doit chercher l'ombre dans un premier temps. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, les vêtements amples, le chapeau, les lunettes et la crème en dernier ressort.
Et on le fait partout, y compris dans des régions où ça pourrait paraître un peu contre-intuitif, parce que j'ai vu que la région la plus exposée au cancer de la peau, c'est pas le sud, c'est pas près c'est pas dans le sud-ouest, près des grandes plages, non, c'est la Bretagne.
Absolument. Absolument, c'est en Bretagne qu'on
Comment
trouve le plus grand nombre de cancers de la peau. C'est probablement lié au fait qu'il y a des comportements de protection qui sont un petit peu moins élevés, peut-être parce qu'il y a plus de nuages, mais en fait les nuages, souvent...
Ça ne protège pas du tout.
Non, ça ne protège pas. On peut attraper des coups de soleil derrière les nuages. Et aussi parce que c'est peut-être des gens qui, quand elles partent en vacances, ont très envie de profiter du soleil et donc du coup prennent beaucoup plus de risques.
On n'est pas des saucisses, voilà, c'est le slogan de votre campagne que vous lancez aujourd'hui, Alexandre Cobigot, responsable prévention au sein de la Ligue contre le cancer. Merci d'être venu dans le studio du 5-7.
Ce mardi, jackpot record Euro-million de 250 millions d'euros. Et vous, quel millionnaire seriez-vous ? FDJ, montant à partager au rang 1, plafonné à 250 millions d'euros, voire règlement sur fdj.fr. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux, perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.
6h28.
La météo avec TGV Inouï. Trouvez votre coin de ciel bleu dans une de nos 200 destinations en France et vers l'Europe.
Bonjour Marie-Pierre Planchon.
Bonjour Mathilde Munoz.
Nous allons avoir une journée estivale.
Ah oui, et c'est parti pour toute la semaine normalement, car on va rentrer dans une situation de blocage anticyclonique avec un temps largement ensoleillé sur l'ensemble du pays, même si on a quand même des nuages bas hein, qui couvrent ce matin les côtes de Manche, du nord de la Bretagne à la Normandie ce matin. Mais l'évolution est favorable en journée, comme hier. On va avoir aussi des cumulus de beau temps qui vont se former cet après-midi au nord de la Seine, ainsi que sur la région PACA. Quelques ondes possibles sur les crêtes frontalières des Alpes du Sud. Puis sur la Corse, après une matinée bien ensoleillée, les nuages vont se former sur le relief échappant quelques ondées dans la journée, sans oublier le vent qui va faiblir dans les régions méditerranéennes.
Et il fait plus doux ce matin.
Ah oui, l'air chaud commence à remonter doucement, même sur le nord-est, actuellement plus bas. Il fait 8 à Aurillac, 9 à Épinal, contraste avec les 23 à Nice et 21 à Perpignan. Vous vous réveillez avec 16 à Paris, 13 à Lille et Brest ou Strasbourg. Et cet après-midi, ça continue de grimper, excusez-moi, pour atteindre les 29 à 31 sur l'Île-de-France, les Pays de la Loire, le Centre-Val-de-Loire, la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie, la région PACA et la vallée du Rhône. Un cran en dessous pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, la Bourgogne Franche-Comté et le Grand Est, ainsi que sur le sud de la Bretagne et Hauts-de-France, on aura entre 25 et 28, mais pas plus de 19 à 22 le long de la Manche. Et c'est dans le Languedoc-Roussillon qu'il fera le plus chaud avec 32-34.
Marie-Pierre Planchon, France Inter, 6h30. Le journal Florence Paracuellos, bonjour.
Bonjour Mathilde, bonjour à tous. À la une ce matin, les retraites et la fin du conclave des partenaires sociaux. Est-ce vraiment la dernière séance? Arriveront-ils à se mettre d'accord sur les questions d'âge et de pénibilité? L'avenir des salariés en dépend, comme celui peut-être de François Bayrou. Donald Trump quitte le G7 pour revenir de s'occuper de la guerre à Washington. Guerre Israël-Iran, nouvelle frappe de part et d'autre cette nuit. On s'intéresse à l'arsenal iranien. Dans ce journal aussi, Gaza et un nouveau carnage en marge des distributions humanitaires. L'ADN qui n'est peut-être plus la preuve souveraine en matière criminelle. Et du judo au championnat du monde, Margot Pino remet son titre en jeu. C'était la martingale de François Bayrou, un conclave entre les partenaires sociaux pour rediscuter de la réforme contestée des retraites. Calcul réussi quand il est lancé en février puisqu'il permet au Premier ministre d'éviter la censure des socialistes. Près de 4 mois plus tard, on y est. Dernier rendez-vous inscrit à l'agenda des 5 participants encore présents, syndicats et patronats. Mais comme aucun accord n'est garanti, François Bayrou leur laisse encore quelques jours de plus, si nécessaire, Maxime Debs, pour étudier la nouvelle idée qu'il vient de lancer.
Oui, avec une prime senior pour les salariés avec tout leur trimestre, qui accepteraient malgré tout de rester en emploi. Le Premier ministre l'a notamment présenté à la CFTC, 10% de la retraite versée en plus du salaire pour ceux qui seraient volontaires. Mais la CFDT et la CFE-CGC rappellent qu'à la base, l'idée du conclave était de permettre de partir plus tôt et non pas d'inciter à partir plus tard.
Les syndicats, cela dit, semblent avoir fait une croix sur la question des 64 ans, âge de départ maxime. C'est une autre ligne qu'ils veulent faire bouger.
Oui, à défaut de l'obtenir sur les 64 ans, ils espèrent encore faire bouger le curseur des 67, qui est en fait l'âge auquel vous pouvez partir à taux plein, même si vous n'avez pas tous vos trimestres. Les syndicats voudraient ramener cette borne à 66 ans, mais le patronat est contre. Impossible à financer avec un coût pour le système évalué à 1,2 milliard en 2030 par la CPM.
Et oui, car l'enjeu, c'est l'équilibre financier aussi, avec un déficit qui devrait atteindre les 6,6 milliards d'euros d'ici 5 ans.
Et c'est toute la difficulté de ces discussions où le patronat se dit prêt à faire des concessions. Oui, pour un meilleur calcul de la retraite des femmes, c'est un sujet. Oui, aussi pour une meilleure prise en compte des facteurs de pénibilité de certains métiers. Mais non à une hausse de cotisation de la part des patrons.
Maxime Debs du service économique et social de France Inter. Simplifier jusqu'à supprimer les ZFE, le projet de loi est mal parti à l'Assemblée, qui prévoit toute une batterie de dispositions pour les particuliers, les entrepreneurs, les commerçants et la fin des fameuses zones à faible émission qui empêcheraient les vieilles voitures de rouler. Il devrait être rejeté, ce projet de loi, cet après-midi, notamment par le groupe macroniste et par la gauche.
Il est 6h33, cinquième nuit de frappe entre Israël et l'Iran.
La guerre se poursuit. Tout le monde devrait évacuer Téhéran immédiatement, a dit Donald Trump hier soir au sommet du G7, qu'il a finalement décidé de quitter précipitamment pour suivre le conflit depuis Washington. À Téhéran, cette nuit, de nouvelles explosions ont retenti. Les habitants qui peuvent le faire continuent à quitter la capitale. Parallèlement, l'Iran a lancé de nouvelles salves de missiles sur le nord d'Israël ce matin et l'on se demande de quel arsenal dispose encore le régime frappé depuis vendredi. Élément de réponse avec Claude Guibal.
Il y a 2 ans pile, l'Iran dévoilait avec fierté son premier missile hypersonique. Un engin d'une portée de plus de 1400 km, capable d'atteindre 15 fois la vitesse du son, tout en transportant une charge de plusieurs centaines de kilos. Un projectile quasi impossible à intercepter, une arme redoutable et donc capable d'atteindre Tel Aviv en quelques minutes. L'Iran en avait déjà tiré un premier l'an dernier, lors des premiers temps de l'escalade avec Israël. Un autre ce week-end. Combien lui en reste-t-il ? Peu, probablement. Mais au-delà, l'Iran possédait surtout avant l'attaque de vendredi l'un des plus gros arsenaux de la région, estimé à 2 ou 3 000 missiles balistiques ou de croisière, dont certains capables de parcourir au moins 2 000 km en emportant des charges allant jusqu'à une tonne. Environ 200 de ces missiles auraient été tirés depuis samedi, sans compter les drones, point fort de l'industrie d'armement iranienne. Malgré les destructions de stocks, le nombre de missiles restants serait donc important, mais leur utilisation est freinée par la destruction de 120 lanceurs, selon les Israéliens, qui estiment avoir ainsi neutralisé un tiers des capacités de lancement iranienne.
Claude Guibal, pendant ce temps-là, la guerre continue à Gaza et de nouveau, 20 personnes ont été tuées hier en allant chercher de l'aide humanitaire. Selon la défense civile de l'enclave, Étienne Monin, la distribution de denrées est devenue un piège pour les Gazaouis.
Nedal Abdouna vit dans l'est de la ville de Gaza. Il dit que la guerre a changé de visage. Pour les habitants, c'est devenu une guerre de la faim. La recherche de nourriture et la survie sont pour lui les seules préoccupations aujourd'hui à Gaza.
Véritablement, les gens sont occupés à chercher de la nourriture et de l'eau. On ne s'intéresse vraiment pas à ce qui se passe en Iran. On s'en fiche, mais on espère quand même que les deux parties vont trouver un accord qui inclut Gaza.
Après avoir été bloquée, l'aide humanitaire entre au compte-gouttes. Elle est essentiellement gérée par une ONG américaine très critiquée. L'aide n'est pas dimensionnée, les centres de distribution sont pris d'assaut et les Palestiniens sont exposés aux tirs de l'armée israélienne, dit Rami Abou Jamous, journaliste à Gaza.
C'est l'endroit le plus dangereux et c'est l'endroit qu'on ne peut pas l'éviter. La majorité de la population de Gaza dépend d'aide humanitaire, donc dépend de ces centres-là parce que la population est affamée. Et malheureusement, ces centres de distribution, c'est des centres de massacre.
D'après le ministère de la Santé, 300 personnes sont mortes près des centres de distribution. L'armée israélienne justifie des tirs sur les civils en parlant de menaces pour les soldats.
Étienne Monin, le monde et la guerre, c'est encore l'Ukraine où des frappes russes ont fait au moins 14 morts cette nuit à Kiev, selon l'administration militaire de la capitale ukrainienne. La surveillante de Nogent, décorée de la Légion d'honneur à titre posthume, proposition d'Elisabeth Borne, ministre de l'Éducation nationale, après le meurtre de la jeune femme mardi dernier. Ses obsèques auront lieu aujourd'hui. L'ADN est-il une preuve infaillible ? Question au cœur du procès en appel de l'assassinat terroriste d'un couple de policiers à Magnanville en juin 2016. L'assaillant djihadiste avait été tué par les forces de l'ordre, mais un de ses proches est accusé de complicité pour avoir été présent dans la maison au moment de l'attentat. Condamné à la perpétuité en première instance, il nie, lui, être entré dans cette maison. Il a fait appel de sa condamnation. Toute la question, Charlotte Piret, étant de savoir comment l'ADN de cet accusé s'est-il retrouvé sur les lieux du crime.
C'est une trace ADN retrouvée sur l'ordinateur des victimes. Ni une ni deux. Un avocat de partie civile emprunte le gant d'un gendarme, s'installe devant son portable et montre comment la bande de peau entre le gant et sa manche est à l'origine d'un dépôt ADN. Mais la possibilité de laisser des traces ADN est multifactorielle, tempère une première experte, qui ne peut exclure l'hypothèse d'un transfert. Comprenez, le terroriste touche son ami ou un même objet que lui et dépose ensuite son ADN sur les lieux de l'attentat. On est à la limite de nos connaissances, explique un deuxième expert. Car paradoxalement, les avancées scientifiques ont rendu la science plus incertaine. Au début, il nous fallait des litres de sperme ou de sang pour établir une identité, poursuit l'expert. Aujourd'hui, une micro-quantité suffit, mais il est plus difficile de savoir comment elle est arrivée là. D'autant que voilà un troisième spécialiste. Lui est avocat et il énumère toutes ces affaires où l'ADN de la scène de crime était une fausse preuve. Fébrile, l'avocat général se lève alors, clame « Non, la culpabilité de l'accusé ne repose pas exclusivement sur l'ADN. » Ou comment entériner que décidément, l'ADN n'est plus la reine de la preuve.
Charlotte Piret, est-ce le retour de la corrosion du parc nucléaire ? Des micro-fissures ont été repérées sur des tuyauteries du circuit de refroidissement du réacteur numéro 2 de la centrale de Civaux. EDF se veut rassurante en parlant d'événements isolés sans impact sur la production. Plusieurs réacteurs, on s'en souvient, avaient dû être mis à l'arrêt il y a 3 ans pour cause de corruption, de corrosion. Les journées se suivent et ne se ressemblent pas aux mondiaux de judo après le massacre de Johann Benjamin Gaba dimanche. Les Bleus ont fait chou blanc hier sur les tatamis de Budapest. La France compte 3 médailles après 4 jours de compétition, collection qui pourrait s'étoffer aujourd'hui avec 2 grandes chances de podium. Chez les hommes, on compte sur Maxime Gaël Gaillap-Ambou. Dans le tableau féminin, Margot Pinault remet son titre de championne du monde en jeu, conquis à Abu Dhabi l'an dernier en moins de 70 kilos. La Française aura donc le dossard rouge épinglé sur son kimono qu'elle espère bien conserver.
Moi, ce qui vraiment m'a fait plaisir, c'est d'avoir le titre. Le dossard rouge est un peu un plus. J'essaie d'avoir un peu moins de pression. C'est vrai que je bosse beaucoup à l'objectif et j'essaie de prendre plus de plaisir, d'avoir moins cette pression. Je veux faire championne du monde parce que c'est acquis. Mais on s'en remet forcément, l'être humain s'en remet, veut toujours plus, veut toujours mieux. Donc oui, je pourrais faire 2 fois championne du monde. Après, on sait qu'être championne du monde, c'est très dur. Dans une catégorie très concurrentielle, il y a beaucoup de monde. J'aimerais forcément, je veux le conserver.
Voilà, la pression déjà du titre quand on en brigue un deuxième de Margot Pinault, judokate française, au micro de Nicolas Perronnet. La phase finale pour la distribution des médailles, c'est à partir de 18h aujourd'hui.
Merci Florence Paracuelos. François Hollande est l'invité du grand entretien de France Inter. Alors que sa famille politique s'est réunie en congrès ce week-end et n'a pas pu cacher ses divisions, on parlera donc du PS avec l'ancien président, mais aussi du conflit entre Israël et l'Iran. Le grand entretien, c'est à 8h20 avec Léa Salamé et Nicolas Demorand, et avec vos questions aussi, 01 45 24 7000 pour le standard qui décroche à partir de 7h ou dès maintenant sur l'appli Radio France via l'onglet Réagir.
France Inter, 14h, Mathieu Vidard.
Les animaux exotiques envahissent le monde. La biologiste Cléo Bertelsmeyer étudie leur stratégie d'adaptation. Elle est notre invitée ce mardi.
La Terre au carré.
Tous les jours à 14h sur France Inter.
On en parle.
Et si on préférait l'électricité? On en parle avec Géraldine Paloc chez EDF. Préférer l'électricité, pourquoi?
Aujourd'hui, on consomme surtout du gaz et du pétrole, qui émettent beaucoup de CO2, qui sont importés et pèsent lourdement sur la balance commerciale française. L'électricité, elle est produite en France et elle est légère en CO2. Et donc, ça permet de réduire notre empreinte carbone, tout en renforçant notre souveraineté.
Merci Géraldine.
Bilan 2024 RTE. Plus d'infos sur edf.fr/climat. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
6h41.
France Inter. Le 5-7.
Ils ont l'info en intraveineuse. Voici les chroniqueurs du Carrefour. Bonjour.
Bonjour Mathilde.
L'économie avec Emmanuel Dutheil.
Tiens, il paraît que Luca Di Meo quitte Renault, mais il va surtout faire un grand virage vers le luxe. Pourquoi donc?
Regarde le monde, Marie Boëton.
Direction les États-Unis où les opérations anti-migrants ordonnées par Donald Trump pourraient bien peser sur la croissance américaine.
11 décarbone, Raphaël Gerson.
Sous la tente, dans un gîte à l'hôtel ou dans un camping-car, quel est l'hébergement le plus écolo pour ses vacances?
Capture d'écran, Eva Rock.
Alors, question provocatrice mais qui donne lieu à une émission extrêmement intéressante. Sommes-nous tous racistes?
Daniel Morin.
Hier dans la rue, une mère n'en pouvait plus de son gosse qui hurlait, lui disait « J'en ai assez, t'es toujours en colère, j'en ai marre, faut arrêter Anatole. » Ah bah voilà, on sait. On sait pourquoi, il faut les appeler avec des prénoms normaux les enfants, après ils sont calmes.
C'est quoi un prénom normal?
Bah oui.
Daniel,
normal,
quel jugement.
Devenu de quelqu'un qui aime la Macédoine, je ne prends pas.
Allez, le mardi, on commence avec l'économie. Emmanuel Dutheil, vous revenez sur le transfert surprise de Luca Di Meo de Renault à Kering. Son arrivée chez le géant du luxe a été confirmée hier soir.
Oui, on va vite passer sur le fait qu'il a remis le constructeur automobile sur de meilleurs rails. Ça a été abondamment raconté depuis dimanche soir. Ce qui est sûr, c'est que sa nouvelle mission ne s'annonce pas beaucoup plus simple. Chez Kering, détenu par la famille Pinault, il va trouver un groupe en panne de croissance, confronté à la chute de ses ventes en Chine, à la baisse de la désirabilité de ses marques et une génération Z plus volatile que jamais. Il devra notamment relancer Gucci, ex-poule aux œufs d'or, en perte de vitesse maintenant depuis plusieurs années, et puis assurer le succès de marques comme Bottega Veneta ou Balenciaga.
Mais pourtant, Luca Di Meo ne vient pas du tout.
Moi,
du
je reste ici.
Oui, vous restez ici, Emmanuel. Luca Di Meo, lui, il vient pas du tout du monde du luxe.
Eh bah oui, vous avez bien regardé le CV. Avant le groupe Renault, il était chez Seat et encore avant chez Fiat. Pour autant, tout le monde lui reconnaît un sens aigu des marques et plus largement du marketing. La Fiat 500, Cupra, la marque haut de gamme de Seat, la relance avec succès de modèles aussi iconiques que la R5 ou la 4L chez Renault, c'est lui. Et même si on ne vend pas une robe ou un sac de grand couturier de la même façon, la logique reste la même, c'est-à-dire créer du désir. Et c'est bien pour cela que Kering est venu le chercher. Le géant du luxe ne s'en cache pas. Les discussions ont été lancées il y a plusieurs mois et son nom a fait très vite l'unanimité. En plus, il parle parfaitement français et italien, notons au siège du géant du luxe, un géant du luxe qui est très partagé entre les deux pays.
Mais pourquoi il change? Il n'en pouvait plus de vendre des voitures ou il a toujours voulu travailler dans le luxe?
Bon, allez, peut-être un petit peu de tout ça. En tout cas, le départ de Luca Di Meo raconte une autre histoire, celle d'un désenchantement des grands patrons pour ce qu'on pourrait appeler l'industrie classique avec de vraies usines soumises à des régulations lourdes, des pressions politiques, des marges faibles. Malgré la relance, l'avenir très incertain de Renault et l'interventionnisme permanent de l'État ont joué aussi sûrement dans son envie d'ailleurs. À l'inverse, le luxe offre un pouvoir plus libre, des cycles plus courts. Ah puis bah tiens, des salaires plus hauts, ça aussi c'est intéressant. Mais le luxe doit aussi se réinventer. Un défi majeur s'ouvre donc à lui. S'il réussit, on saura que finalement, peut-être, on peut vendre des Clio et des sacs Saint-Laurent avec les mêmes ressorts.
Emmanuel Duteil, directeur de la rédaction de l'Usine Nouvelle. 7h moins le quart, regarde le monde, la chronique internationale du 5-7 avec vous, Marie Boéton. Nous allons aux États-Unis où les Hispaniques redoutent d'être arrêtés en faisant leurs courses.
Oui Mathilde, et ils ont raison. Stephen Miller, le principal conseiller de Donald Trump sur l'immigration, exige désormais des policiers qu'ils procèdent à l'arrestation de 3000 clandestins par jour, soit près de 10 fois plus que sous l'ère Biden. Selon lui, il faut, je cite, « saturer le pays d'arrestations ». Comment Stephen Miller pense avoir trouvé la méthode et exhorte désormais la police à se poster aux abords des supérettes 7-Eleven ou des magasins de bricolage Home Depot. Sans surprise donc, certains latinos hésitent à se rendre au centre commercial. Au premier trimestre, la grande distribution a enregistré une baisse de fréquentation des hispaniques de 11%. En cause, bien la crainte d'être contrôlé et pour les sans-papiers d'être expulsés. Ils achètent donc désormais davantage sur Internet et se font livrer à domicile. La part des achats effectués en ligne par les latino-américains a atteint 58% au premier trimestre de cette année, selon les chiffres publiés ces jours-ci par le Wall Street Journal. Ce qui les amène de fait à consommer différemment.
C'est-à-dire, qu'est-ce qui change?
Bien, la population hispanique consomme globalement moins que l'an dernier. On note notamment une diminution des achats imprévus, qui sont moins fréquents, on le sait, quand on fait ses courses en ligne que lorsqu'on déambule dans les rayons. Premières à en pâtir, les ventes de vêtements, de cosmétiques. Autre secteur concerné, celui des boissons. Les latinos tournent le dos à nombre d'événements sportifs, la peur toujours de l'interpellation. Résultat, leur consommation de Coca-Cola et de bière diminue, elle aussi. Dernière victime collatérale de ce tour de vis anti-migrants, les restaurants latinos qui voient leur fréquentation couler à pic. Alors, fait notable, les hispaniques ayant des papiers en règle se mettent eux aussi à consommer moins. Parmi eux, certains vivent en effet dans la crainte qu'un proche, clandestin lui, soit renvoyé au pays avec, à la clé, une fragilisation de la famille tout entière. Résultat, on préfère épargner au cas où.
Donc ces opérations anti-immigrés pèsent finalement par ricochet sur l'économie américaine dans son ensemble.
Tout à fait, car les latinos représentent désormais près d'un cinquième de la population aux États-Unis et même un quart des 15-30 ans. Les hispaniques dynamisent littéralement la consommation. Multiplier les mesures répressives à leur endroit et entretenir un climat de peur dans leur rang revient in fine à fragiliser la croissance américaine. En traquant les migrants jusque dans les supermarchés, l'Amérique se prive de très bons clients.
Marie Boéton du journal La Croix. 6h47, 11 décarbone. Raphaël Gerson, ce matin, vous nous aidez à choisir le bon hébergement pour les vacances.
Tente maréchale, 4 places adultes, 2 places enfants. Ventilation latérale, couture étanche, double toit.
C'est une tente quoi.
Et oui, c'est une tente. Mais Franck Dubosc, alias Patrick Chirac, dans le film Camping, a raison d'essayer de convertir son nouvel ami, joué par Gérard Lanvin. Dormir sous une toile est de loin la façon la plus écologique de vous loger cet été. Car l'empreinte carbone d'un hébergement est principalement liée à l'énergie qu'il a fallu pour le construire et à celle qu'on utilise une fois dedans. Le bilan d'une nuit en camping s'élève ainsi à 1,5 kg de CO2 par personne. C'est à minima 3 fois plus dans un hôtel ou une location.
Et si on tient quand même au confort d'un gîte ou d'un hôtel.
Bah oui.
Il y a des labels.
Pensez à notre petit dos quand même.
Voilà, donc ah ouais, on est vieux, nous.
Ben, il y a des labels pour choisir les plus respectueux de l'environnement. Si vous louez un gîte, vous pourrez choisir les éco-gîtes
ou les gîtes Panda du WWF. Et si vous préférez les chambres d'hôtes ou les hôtels, optez pour ceux qui portent les certificats, les hôtels au naturel, la clé verte ou l'écolabel européen. Ce n'est pas le choix qui manque, il y en a plus de 300 en France. Enfin, n'oubliez pas les éco-gestes habituels, comme garder les mêmes draps plusieurs jours.
Ouais, ça, les hôtels maintenant le demandent souvent. Vous trouvez que c'est important ou c'est du greenwashing, ça ?
C'est du greenwashing si l'hôtel en question ne fait que ça et que son engagement dans la transition écologique se résume à cette injonction. Mais ça compte, car le traitement du linge hôtelier en France représente plus de 10 millions de mètres cubes d'eau par an. C'est l'équivalent de la consommation annuelle de 200 000 Français. Et je ne parle pas des 15 000 tonnes de lessive chimique qui finissent dans les rivières, les fleuves et les océans chaque année.
Et le camping-car, c'est écolo ou pas ?
Alors, le camping-car, c'est une maison qui bouge. Donc, il faut le comparer avec les autres hébergements, mais aussi avec les transports que vous utiliserez pour vous rendre sur votre lieu de vacances. Si vous prenez le train ou même votre voiture pour ensuite faire du camping, ce sera toujours plus écologique que le camping-car qui consomme en moyenne deux fois plus de carburant. Mais si vous prenez l'avion, même si vous dormez sous tente à l'arrivée, le camping-cariste aura émis beaucoup moins de CO2 que vous, et ce, quelle que soit la destination.
Alors moi j'ai une autre configuration. Si on a loué un gîte et qu'on y va en voiture, est-ce que le camping-car reste plus écologique ?
Alors le camping-car...
Oui, la voiture. La question a été comprise.
Pour deux personnes dans le sud de la France, précisément.
Ça peut s'arrêter à Châteauroux aussi. Hein.
Alors dites-moi.
Ben en fait, le camping-car, il émet plus de CO2 quand il roule, mais les nuitées, ils sont moins carbonées que dans un gîte. Donc tout va dépendre du nombre de nuits et de kilomètres parcourus. Si vous partez pendant 15 jours, le camping-car sera plus écologique dans un rayon de 500 km. Et au-delà, c'est la voiture et le gîte qui gagnent.
Merci, voilà, j'ai ma réponse. Raphaël Gerson, il est 6h50.
Capture d'écran avec la compagnie des déboucheurs. Entretien, débouchage et intervention sur tout type de canalisation. La compagnie des déboucheurs, c'est plus votre problème, c'est notre métier.
Eva Rock, pour le conseil télé du jour, vous nous suggérez de regarder France 2 ce soir. La chaîne propose un programme inédit.
Exactement, avec à la présentation Jamie Gourmaud et Marie Drucker, qui sont accompagnés de deux invités, le comédien et réalisateur Lucien Jean-Baptiste et le psychosociologue Sylvain Delouvet. Titre de l'émission, sommes-nous tous racistes ? Alors évidemment, la réponse n'est pas oui ou non, c'est un peu plus compliqué que cela. Là, pour le prouver, 50 personnes, alors qui ignorent l'intitulé et l'objectif de l'émission, c'est important, sont soumises à une quinzaine d'expériences scientifiques. Je vais vous en décrire une. Les candidats doivent s'imaginer à la place d'un juré. Quelle peine de prison mérite, selon eux, un homme ayant involontairement causé la mort d'un autre dans une bousculade à la sortie d'une boîte de nuit ? 3, 5, 7, 10 ou 15 ans de prison. Une photo de l'accusé est présentée à la moitié des participants. Il s'agit d'un homme blanc et blond. L'autre moitié des candidats se retrouve face à un homme au teint mat, chevelure brune et petite barbe. Les premières réactions que vous allez entendre concernent l'homme blond.
Il a une bonne tête, il a pas l'air d'être violent. C'est une erreur de jeunesse. 7 ans, puis il a le droit de continuer ses études s'il est étudiant, parce qu'il a une tête d'étudiant.
C'est pas sa faute. J'irai 3 ans.
Tous les participants ne sont pas confrontés au même accusé. Le crime reste exactement le même, mais est-ce que la peine de prison va varier en fonction du visage de l'homme qui leur est présenté ?
Je dirais la peine maximum. 15 ans.
Il n'y a pas perpétuité ?
Non.
Alors, l'idée n'est pas de dire que les personnes qui ont attribué la peine maximum sont racistes, surtout pas. L'émission tend à démontrer comment se forment les stéréotypes et les préjugés dans notre cerveau.
Notre cerveau est naturellement paresseux. Pour s'économiser, il réduit la complexité du monde qui nous entoure. Plutôt que de distinguer les gens un par un, il préfère les classer automatiquement dans des catégories. Les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux, les riches et les pauvres, les homosexuels, les roux, les obèses, mais aussi les blancs et toutes les minorités visibles, ou encore les juifs et les musulmans, et tant d'autres. Cela s'appelle la catégorisation sociale. Ce mécanisme psychologique entraîne aussi des biais de perception. Notre cerveau perçoit en priorité les ressemblances entre les individus de notre propre groupe et les différences avec les membres des autres groupes.
Est-ce que vous avez un autre exemple ?
Ah oui, alors c'est sans doute l'expérience que je préfère et vous allez comprendre pourquoi. Les participants sont répartis en trois groupes. Tous assistent à une mini-conférence sur l'intelligence artificielle. Le premier groupe est face à un monsieur en costume, exposé clair, prononcé avec un accent allemand. Les candidats l'ont-ils trouvé compétent, chaleureux ? Réponse.
Très compétent.
Plutôt convaincant.
Très compétent dans son domaine.
Puis l'accent allemand rajoutait un peu du peps. Moi, j'ai bien aimé.
Et pas chaleureux, pas particulièrement.
Moyennement chaleureux.
Alors, même expérience avec le deuxième groupe, même conférencier, il s'agit en fait d'un comédien, même tenue vestimentaire, même propos, mais l'accent allemand a disparu au profit d'un accent du Sud.
Moyen compétent.
Très peu compétent.
Moyennement compétent.
C'est intéressant, mais on a l'impression qu'il ne sait pas de quoi il parle.
Plutôt chaleureux.
Okay.
Plutôt chaleureux.
Très chaleureux.
Et le troisième groupe ?
Le conférencier est noir, costume, lunettes et même propos, mais là, les participants ne trouvent pas les mots pour caractériser sa prestation, ni chaleureux, ni compétent. En fait, le stéréotype qui permet de simplifier notre environnement, comme on l'a entendu dans le son précédent, ne fonctionne plus. On ne sait pas dans quelle case ranger le conférencier, qui s'avère être, dans la vraie vie, professeur des universités. Et Lucien Jean-Baptiste de conclure.
Dans la vraie vie, il y a eu cette histoire qu'a raconté Aimé Césaire, grand poète, homme politique d'origine antillaise. Quelqu'un s'était approché de lui et lui avait dit « Toi, il y en a parlé français ?» Il a dit « Oui, moi, il y en a être agrégé de philosophie. »
Voilà, une émission pédagogique en tout cas qui incite à réfléchir sur nos propres comportements au quotidien. Je vous conseille de la regarder en famille et surtout avec vos enfants. Ça fait du bien.
Sommes-nous tous racistes ? Cette émission est programmée sur France 2 ce soir à 21h10. Merci Eva Rock.
Ce mardi, jackpot record Euromillion de 250 millions d'euros. Et vous, quel millionnaire seriez-vous ? FDJ, montant à partager au rang 1, plafonné à 250 millions d'euros, voire règlement sur fdj.fr. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux, perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.
France Inter, partenaire de Plouf, le nouvel album de Flavien Berger.
Monte la mer.
Une relecture audacieuse et poétique de son album culte Léviathan, revisité avec les musiciens et musiciennes de la brume. Flavien Berger, Plouf, un album France Inter.
7h05.
La météo avec TGV Inouï. Trouvez votre coin de ciel bleu dans une de nos 200 destinations en France et vers l'Europe.
Marie-Pierre Planchon, il y a quelques brouillards matinaux.
Oui, dû à la poussée anticyclonique, Mathilde, des brouillards qu'on retrouve donc vers la Bretagne, le Calvados, le Cotentin, mais aussi dans le Pays de Caux. Des brumes qui vont se dissiper rapidement avec le soleil qui monte. Sur les autres régions, c'est soleil, avec du vent méditerranéen qui faiblit quand même, mais pas en Corse, sous des températures très contrastées ce matin, malgré l'air chaud qui commence à monter tout doucement vers le nord. Actuellement, vous n'avez pas plus de 6 degrés dans la Creuse ou à Chaillac dans l'Ingre, mais 21 Porquerolles. Vous vous réveillez avec 9 au Puy-Loup, dont Nancy et Auch ou Besançon, 12 à Quimper, 13 à Lille et 16 à Paris.
Et alors cet après-midi, ce sera estival.
Et oui, ce beau temps va se stabiliser au moins jusqu'au week-end avec l'installation donc de cet anticyclone qui va d'ailleurs former une situation de blocage en forme d'oméga d'ici jeudi. Cet après-midi, va avoir, comme hier, on va avoir la formation de cumulus au nord de la Seine, mais avec l'effet de brise maritime, le ciel va se dégager près des côtes de la Manche, excepté au nord du Cotentin et des côtes d'Armor. Et puis comme en été, on va avoir la formation de cumulus sur le relief des Alpes du Sud, lâchant une ou deux averses avec le vent qui va faiblir près de la Méditerranée, mais toujours pas en Corse. Et les températures vont monter de 2 à 3 degrés un peu partout cet après-midi. Mais ça va rester très contrasté entre le nord et le sud. Alors que vous aurez 21 sur la plage de Fort-Mahon sur la côte d'Opale, vous aurez 36 dans l'Hérault à poil.
Merci Marie-Pierre. Okay. Il faut que j'enchaîne moi maintenant.
Ah, mais vous avez de quoi faire.
Débrouillez-vous.
Sans transition, Daniel Morin.
Emmanuel Macron est au Canada pour le G7 et je ne sais pas si les dirigeants présents sur place savent ce qui les attend. Plus ça va, plus notre président parle à tout va, dans tous les sens, abordant tous les sujets, disant parfois le contraire de ce qu'il vient d'affirmer. Vivement le compte-rendu de la première journée de travail. France Inter, flash spécial, tournée Macron 2025. Ce matin, Emmanuel Macron a pris la parole, puis il a laissé le micro à lui-même avant de donner rendez-vous à tout le monde pour son prochain speech. Au petit déjeuner, il a expliqué au chef d'État comment régler le conflit en Ukraine et réussir des cookies moelleux. Par la suite, le président a fait une séance de muscu devant la presse internationale tout en appelant en vision Benjamin Netanyahou. Avant de se coucher, le président a téléphoné à François Bayrou pour lui dire que son immobilisme était scandaleux mais en même temps génial et qu'il l'encourageait à poursuivre sa politique du rien en direction de nulle part. Voilà. Ils sont au moins, ils sont au courant. Et avant d'aller au sommet du G7 au Canada, Emmanuel Macron a fait une pause. Il a fait une pause au Groenland. Alors bien sûr, il s'est exprimé devant les Groenlandais venus le voir. Fier peuple du Groenland, je suis là pour vous dire que je condamne avec la plus grande fermeté les intentions de Donald Trump. Président, excusez-moi, mais voyez pas que je suis en train de faire un super discours, là, foutez-moi la paix. Pardon, je disais que personne ne peut prétendre vouloir prendre vos terres. Le Groenland est... Président, je vais fermer là, mon Dieu, je suis en train de passionner la foule, là. Oui, mais, il n'y a pas de mais, barrez-vous. Peuple du Groenland, sachez que vous pourrez toujours compter sur mon soutien. La France n'est pas seulement la terre des droits de l'homme, elle est aussi le pays qui... Président, s'il vous plaît, ta gueule.
présidents groenlandais sont derrière vous. Là, vous parlez à des phoques.
Amis phoques, sachez que la France est à vos côtés, que la pêche industrielle qui anéantit vos réserves de poissons, eh bien, nous y sommes totalement opposés. Je pense qu'il en serait capable. Sinon, les amis, vous connaissez mon combat contre le foutage de gueule. Je vous avais parlé de ces marques qui nous prennent pour des débiles. Mmh. Exemple avec la colle Coltou. Eh bien, hier, je suis tombé sur presque pire. Une marque de bouée pour enfants appelée la bouée Plouf. Regardez.
C'est magnifique, ça.
La bouée Plouf. Là, ça y est, on est dans l'onomatopée. Je suis effondré. Je demande la peine de mort, hein, quand même, pour les
gens.
Faut arrêter de prendre les gens pour des débiles, la bouée Plouf. Enfin, bref. Et c'est vrai que les vacances approchent et que d'ici peu, on va voir barboter des milliers de gamins, et d'où la nécessité d'avoir quand même de très bons équipements. Et puis, sachez qu'il n'y a pas que les enfants qui doivent être prudents, hein, qui doivent s'équiper. Tenez, avec les beaux jours, vous savez, notre voisin Nico, le dieu du 7-10, eh ben, avec les beaux jours, il arrive à la nage. Alors, le problème, c'est qu'il ne sait pas nager.
Eh oui, je confirme.
Sachez, pour l'anecdote, peu de gens le savent, mais petit, il a été mordu par une truite. Depuis, il a peur. Il est paniqué. Du coup, il porte des brassards gonflables et une bouée Bob l'éponge. Très jolie bouée Bob l'éponge. Alors, bien sûr, il est suivi pour la sécurité. Il est suivi en Zodiac par Aline et Sonia. En cas d'urgence, et s'il panique, ou même s'il coule, Aline et Sonia, qu'il surnomme avec amour l'épuisette et le harpon.
C'est gentil. C'est mignon.
Mais c'est mignon. Vous savez que je peux être mignon, je peux être sympathique.
Moi, j'aime bien ça, les bouées avec un... Je sais pas comment je pourrais le décrire.
Non, ne faites pas ça.
Avec une tête de cygne,
avec un
canard,
col de cygne,
là,
un col,
voilà,